La perspective Nevsky de Nikolaï Vassilievitch Gogol, écrit en 1835 dans le domaine public, lu par Tassani Allo. Il n'y a rien de plus beau que la perspective Nevsky, tout au moins à Pétersbourg, et dans la vie de la capitale, elle joue un rôle unique. Que manque-t-il à la splendeur de cette reine des rues de notre capitale? Je suis certain que nul de ses habitants blêmes et titrés n'accepterait d'échanger la perspective Nevsky contre tous les biens de la terre. Tous en sont enthousiastes. Non seulement ceux qui ont 25 ans, de jolies moustaches et des vêtements d'une coupe irréprochable, mais ceux aussi dont le menton s'orne de touffes grises et dont le crâne est aussi lisse qu'un plat d'argent. Et les dames? Oh, quant aux dames, la perspective Nevsky leur offre encore plus d'agréments. Mais à qui donc n'en offre-t-elle pas? À peine se trouve-t-on dans cette rue qu'on se sent aussitôt disposé à la flânerie. Si même vous avez quelque affaire sérieuse et urgente, dès que vous mettez le pied dans la perspective, vous oubliez immanquablement vos préoccupations. C'est le seul endroit où les gens se rendent, non pas uniquement par nécessité, pour ses besoins ou guidés par cet intérêt mercantile qui gouverne tout Pétersbourg. Il semble que les gens qu'on rencontre dans la perspective Nevsky soient des êtres moins égoïstes que ceux qu'on voit dans les rues Morskaya, Gorokovaya, la perspective Litaïni, où l'avidité et l'intérêt se reflètent sur le visage des piétons, comme aussi de ceux qui roulent en calèche ou en drojki. La perspective Nevsky est la grande ligne de communication pétersbourgeoise. C'est ici que l'habitant des faubourgs de la rive droite, qui depuis plusieurs années n'a plus revu son ami demeurant dans le quartier de la barrière de Moscou, peut être certain de se rencontrer avec lui. Nul journal, nul bureau de renseignement ne vous fourniront des informations aussi complètes que celles que vous recueillez dans la perspective Nevsky. Quelle rue admirable! Le seul lieu de promenade que l'habitant de notre capitale, si pauvre en distraction. Comme ces trottoirs sont bien tenus, et Dieu sait, pourtant, combien de pieds y laissent leurs traces. La lourde botte du soldat en retraite, sous le poids de laquelle devrait se fendre, semble-t-il, le dur granit. Le soulier minuscule, aussi léger qu'une fumée, de la jeune dame qui penche la tête vers les brillantes vitrines des magasins, tel un tournesol vers l'astre du jour. Et la botte éperonnée du sous-lieutenant, riche en espérance, et dont le sabre bruyant raye les dalles. Tout y marque son empreinte, aussi bien la force que la faiblesse. Quelle fantasmagorie s'y joue, quel changement rapide s'y déroule en l'espace d'une seule journée. Commençons par le matin, lorsque toute la ville fleure le pain chaud, à peine retiré du four, et se trouve envahie par une multitude de vieilles femmes vêtues de robes et de manteaux troués, qui font la tournée des églises et poursuivent les passants pitoyables. À cette heure matinale, la perspective Nevsky est déserte. Les gros propriétaires de magasins et leurs commis dorment encore dans leurs draps de Hollande, ou bien rasent leurs nobles joues et prennent leur café. Les mendiants se pressent aux portes des pâtisseries, où un Ganymède encore tout endormi, qui hier volait rapide, telle une mouche, et servait le chocolat, se tient aujourd'hui un balai à la main, sans cravate, et distribue de vieux gâteaux et des rogatons. Des travailleurs passent de leur démarche traînante. Des moujiks russes dont les bottes sont recouvertes d'une telle couche de plâtre que même les eaux du canal Catherine, célèbres pour leur pureté, ne pourraient les nettoyer. À cette heure du jour, il serait gênant pour une dame de se trouver dans la rue car le peuple russe affectionne les expressions fortes et les dames n'en entendent jamais de semblables, même au théâtre. Parfois, son portefeuille sous le bras, un fonctionnaire endormi suit d'un pas dolent la perspective Nevsky, si celle-ci se trouve sur le chemin qui le conduit au ministère. On peut affirmer qu'à cet instant du jour avant midi, la perspective Nevsky n'est un but pour personne, mais un lieu de passage. Elle se peuple peu à peu de gens qui ont leurs occupations, leurs soucis, leurs ennuis, et qui ne songent nullement à elle. Les moujiks discutent quelques copecs. Les vieux et les vieilles se démènent et se parlent à eux-mêmes, parfois avec des gestes extrêmement expressifs. Mais personne ne leur prête attention et ne se moque d'eux. Excepté peut-être quelques gamins en tablier de coton qui courent à toutes jambes à travers la perspective, emportant des bouteilles vides ou une paire de bottes. À cette heure, personne ne remarquera vos vêtements, quels qu'ils soient. Vous pouvez porter une casquette au lieu de chapeau. Votre col peut dépasser votre cravate. Cela n'a aucune importance. À midi, la perspective Nevski est envahie par des précepteurs appartenant à toutes les nations et leurs pupilles au col de Baptiste rabattu. Les jeunes anglais, les Jean et Pierre français se promènent bras dessous avec les jeunes gens confiés à leurs soins et leur expliquent avec un grand sérieux que les enseignes se placent au-dessus des devantures des magasins afin que l'on sache ce qui se vend dans ces mêmes magasins. Les gouvernantes, pâles Mrs. et françaises roses, suivent d'une démarche majestueuse des fillettes délurées et fluettes, en leur recommandant de lever l'épaule gauche et de se tenir plus droite. Bref, à cette heure de la journée, la perspective Nevski est un lieu de promenade pédagogique. Puis, à mesure qu'on rapproche de 2 heures, les gouvernantes, les précepteurs et leurs élèves se dispersent et cèdent la place au tendre père de ces derniers qui se promènent en donnant le bras à leurs épouses, pâles et nerveuses, vêtues de robes multicolores et brillantes. Peu à peu, viennent se joindre à eux tous ceux qui ont terminé leurs occupations domestiques, plus ou moins sérieuses. Les uns ont causé avec leur docteur du temps qu'il faisait ou d'un petit bouton apparu sur leur nez. Les autres ont pris des nouvelles de leur santé, de la santé de leurs chevaux, ainsi que de celle de leurs enfants qui font montre de très grandes aptitudes. Ceux-ci ont lu attentivement la fiche des spectacles et un important article de journal sur les personnages de marque de passage à Pétersbourg. Ceux-là se sont contentés de prendre leur café ou leur thé. Ensuite, l'on voit apparaître ceux qu'un sort enviable a élevés au rang béni de secrétaire particulier ou de fonctionnaire en mission spéciale. Puis, ce sont les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, lesquels se distinguent par la noblesse de leurs goûts et de leurs occupations. Mon Dieu, que de belles fonctions, que de beaux emplois qu'ils existent de par le monde, et comme ils ennoblissent et ravissent l'âme. Mais moi, je ne suis pas fonctionnaire, hélas. Je suis privée de plaisir de connaître l'amabilité de mes chefs.